Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab sur le 88.4 en FM, peut-être en DAB+. Sinon, maintenant, vous savez que c'est aussi possible en DAB+. Plus que quelques jours pour jouer. Nous avons un concours en ce moment en partenariat avec l'association humanitaire Pengal Alayam. C'est une asso qui vient en aide aux femmes et filles indiennes victimes de violences et qui organise deux journées de découverte de la culture indienne les 27 et 28 juin prochains. C'est à Janzé et c'est le Fest India. Et donc, pour l'occasion, vous pouvez gagner une place pour le spectacle de danse et de musique indienne du Fest India. C'est le samedi soir à 20h30 à la salle du Lanciègue. Pour jouer, pour gagner, vous avez besoin d'un mot de passe.
Le temple des femmes.
Oui, c'est ça. C'est la signification de Pengal Alayam en tamoul. Merci Enora. Pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, c'est le flash d'Anthony.
Dans la nuit de samedi à dimanche, Donald Trump a décidé de bombarder 3 sites nucléaires iraniens. Ceci sans l'autorisation du Congrès et en violation du droit international. Les États-Unis, sous sa présidence, sont engagés dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, répondant aux attentes d'Israël. L'opération aérienne a visé des sites clés à Natanz, Isfahan et Fordo, abritant des installations de programmes nucléaires iraniens. Trump a qualifié cette destruction, je cite, d'attaque très réussie, bien que l'évaluation des coûts soit encore en cours. Les autorités iraniennes ont arrêté aujourd'hui un ressortissant européen soupçonné d'être un espion, alors que les responsables de l'Union appellent au calme. De son côté, l'Iran promet une action ferme et menace de fermer le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial. Depuis quelques jours, les gares françaises ressemblent plus à des checkpoints qu'à des halles de départ. Le gouvernement intensifie les contrôles d'identité, officiellement pour sécuriser les flux. Sur le terrain, d'autres s'organisent pour accueillir celles et ceux qu'on préfère voir partir.
Depuis le 18 juin, les gares françaises ne ressemblent plus à des lieux de transit, mais à des scènes de mission Vigide Pirate édition estivale. Près de 4000 policiers, policières, douaniers, douanières et militaires sont mobilisés dans les gares, trains et bus du pays. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a lancé une vaste opération de contrôle visant les flux. Traduction, les étrangers en situation irrégulière. Alors si vous aviez prévu un week-end tranquille, sans contrôle d'identité, mauvaise pioche selon l'Humanité, plusieurs syndicats, le syndicat de la magistrature, des avocats de France, le groupe d'information et de soutien des immigrés et le collectif d'action judiciaire dénoncent une dérive, un pas de plus sur le chemin de la banalisation des contrôles au faciès. Ces organisations ont d'ailleurs déposé un référé devant le Conseil d'État pointant des interpellations massives, arbitraires et racialisées. On appelle ça l'ordre républicain, mais sur le terrain, ça ressemble parfois à un jeu de devinettes sur qui a le droit d'être là. En clair, si tu es noir, arabe ou que ton sac à dos a l'air d'avoir vu du pays, tu fais partie du flux et Bruno Retailleau compte bien tout filtrer. Il est même venu sur le terrain voir de ses propres yeux une consigne claire, tolérance zéro. Mais pendant que les uniformes quadrillent les gares, d'autres s'activent ailleurs dans les dunes de Wimereux à l'aube. Pendant que les fourgons de police tournent comme dans une mauvaise boucle TikTok, les membres du collectif Alors on aide font l'inverse. Pas d'armes, pas de brassards, juste des barres de céréales, du café lyophilisé et des couvertures. Ils méritent notre hospitalité, répète Fatih au journaliste de France Info avec une rage calme. Pour ces bénévoles, le travail commence souvent dès 5h du matin quand les migrants soudanais, afghans, érythréens reviennent d'une tentative échouée de traverser. Trempés, fatigués, parfois gazés, on ne peut pas rester chez soi quand d'autres dorment dehors, dit Catherine, bénévole et assistante de vie scolaire, qui commence ses journées avec des recharges de téléphone et des lessive improvisée. Une solidarité artisanale mais qui tient debout même quand l'État regarde ailleurs. Et ce n'est pas fini. Le gouvernement veut désormais étendre les possibilités d'intervention en mer. L'objectif, pouvoir intercepter des embarcations jusqu'à 300 mètres des côtes. Un projet sur la table du secrétariat général de la mer. Le ministre veut faire évoluer la doctrine, comprendre, transformer les forces de l'ordre en brigades amphibies. C'est la recette d'un carnage, prévient Ferry. Elle ne parle pas seulement de danger pour les exilés, mais de l'absurdité d'un système qui préfère les voir mourir que les accueillir. 17 morts depuis janvier, selon le ministère de l'Intérieur, engloutis par la Manche. Sur la côte d'Opale, les contrôleurs se durcissent, les bénévoles s'épuisent et les traversées continuent. On dit qu'on ne retient pas la mer avec des barrières. La preuve, elle passe et avec elle, ceux qui n'ont plus d'autre choix.
À Rennes, ce 25 juin, des costards cravates et des CV à la main pour dire l'absurde. Le collectif Accès au droit se rassemblera pour remettre symboliquement des CV à la préfecture. Ici aussi, on demande simplement à exister face aux mois d'attente, aux droits suspendus et aux visages effacés par les écrans. Une mobilisation locale qui fait écho à l'abandon administratif et politique des exilés du nord au sud du territoire. Réforme des retraites. Après 5 mois de négociations, syndicats et représentants du patronat cherchent toujours un accord. Une réunion entre eux a eu lieu dès 15h aujourd'hui. Avant la rencontre, le MEDEF et la CPME, représentants du patronat, ont dit vouloir faire un pas en avant concernant l'âge de décote, les carrières des femmes et la pénibilité. Une proposition marquant un changement pour les organisations patronales qui soutenaient précédemment l'opposition au départ anticipé. La CFDT de son côté les a accusés de vouloir, je cite, « torpiller les négociations » en faisant de nouvelles propositions. Cette 18e et dernière séance de discussion sera en tout cas la dernière du conclave entre partenaires sociaux voulus par le Premier ministre François Bayrou. Des attaques à la seringue pendant la fête de la musique, vague de paranoïa influencée par les réseaux sociaux ou véritable fléau de grande ampleur, il faudra attendre pour en être sûr. En tout cas, 145 femmes ont porté plainte partout en France, dont 21 à Paris. Elles affirment avoir été piquées par une seringue dont le contenu, encore inconnu, aurait provoqué des malaises. Les examens toxicologiques des victimes sont encore attendus, selon le ministère de l'Intérieur. 12 suspects ont été arrêtés. Avant la fête de la musique, des appels lancés sur les réseaux sociaux auraient incité à attaquer et piquer les femmes pendant l'événement. Les JO de Paris ont coûté 5,96 milliards d'euros aux finances publiques, selon la Cour des comptes, 3 fois plus cher que prévu. Selon les institutions, les dépenses d'organisation s'élèveraient à 2,67 milliards, dont 1,4 milliard pour la sécurité. Le coût des infrastructures, lui, serait de 3,19 milliards d'euros. Aucune estimation des coûts publics n'avait été faite jusqu'à présent. De quoi donner du grain à moudre aux organisateurs et organisatrices des JO d'hiver 2030 qui auront lieu dans les en France. Fuite des taureaux en plein centre-ville. 43 taurillons, des jeunes taureaux, se sont échappés de leurs enclos de Noyage-Châtillon-sur-Seiche. C'est arrivé samedi en fin d'après-midi. À la tombée du jour, pompiers et gendarmes avaient réussi à en intercepter une dizaine, mais d'autres ont continué leur périple vers la liberté toute la nuit. Un de ces animaux pesant entre 350 et 700 kg a blessé un pompier à la cheville par un coup de sabot. 15 ont été abattus, les autres ont été capturés vivants et ramenés à leur propriétaire. Jeudi dernier, plus de 1000 voix se sont élevées contre la loi Duplomb dans le centre-ville de Rennes. Une riposte à une loi jugée dangereuse et rétrograde pour celles et ceux dont Enora a recueilli le témoignage.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Stéphane Gallet, donc porte-parole de la Conf paysanne nationale. On est tous présents ici pour dire notre opposition à la loi Duplomb, pour dire que non, tous les agriculteurs ne sont pas en soutien à cette proposition de loi. Nous, les paysans et les paysannes de la Confédération paysanne, on y est particulièrement opposés. On est opposés à cette loi mortifère. Parce que son intention, on le sait tous et toutes, c'est de concentrer les fermes pour plus de compétitivité et faire disparaître les paysans dans les campagnes.
suis Simon, je suis adhérent à la Confédération Paysanne et aujourd'hui on est là contre la loi Duplon qui a été vraiment dictée par la FNSEA et qui promeut l'agriculture intensive, l'agro-industrie à travers l'autorisation de pesticides qui sont aujourd'hui interdits, la facilitation de construire des méga-bassines, des bâtiments aussi d'élevage intensif. C'est les trois points qui sont dans la loi et qui risquent de passer prochainement.
Bonjour, moi c'est Sophie Cobot, porte-parole de la Confédération Paysanne Régionale.
Il y a 13 signataires à l'appel à manifester aujourd'hui, 13 associations environnementales, citoyennes et paysannes. Et on attend le maximum de monde.
Pour défendre les idées et valeurs auxquelles on croit.
Moi je travaille dans une ferme.
Une paysanne d'aujourd'hui.
Et du coup, bah, nous dans l'esprit, ben, voilà, quoi, on a... Enfin, au niveau de la structure, c'est à taille humaine, on essaie de faire du local, d'être... intégrer dans le territoire, quoi. Et puis de prendre soin de nos animaux, de la terre.
Je suis là pour ma fille.
Une maman.
Qui est maraîchère dans le Morbihan. Et pour son compagnon qui est aussi maraîcher à Sarzeau, qui cultive des petits fruits.
Et du coup, de faire un retour en arrière comme ça, sur un poison, clairement.
La loi du plomb, c'est plus qu'un retour en arrière, parce que c'est non seulement réautoriser des substances dont on sait qu'elles sont potentiellement dangereuses, et je pèse mes mots quand je dis potentiellement, mais c'est même en introduire qu'on n'avait pas encore utilisé.
Une militante écologiste.
Nous, c'est essentiel d'être là, parce que depuis tout le temps, on milite pour une agriculture qui soigne les personnes et pas qui les empoisonne.
Bah nous, on avait porté, pendant le moment de la loi d'orientation, des revendications assez fortes.
Stéphane Gallet, porte-parole nationale de la Confédération Paysanne.
Sur la répartition du foncier, sur la régulation des marchés par exemple, faire en sorte qu'il y ait une répartition de la valeur dans les filières. Voilà. Et puis les prix minimum garantis, c'est quelque chose qu'on avait porté aussi pendant le salon de l'agriculture. Donc on continue à porter ces revendications-là. Et puis il y a une revendication forte, c'est de permettre, au travers notamment des lois foncières, mais pas que, à travers aussi de lois qui favorisent la transmission, permettre l'installation des jeunes paysans et paysannes.
Tant qu'on bloquera sur ce problème du foncier, on aura beau traiter tous les autres problèmes, on ne bougera pas.
Une paysanne de la fin des années 1960.
Est-ce que vous avez quand même espoir ?
J'en sais rien. Enfin, je voudrais bien. Je voudrais bien, mais j'ai l'impression depuis plus de 50 ans, là, on fait du surplace.
Alors, petite info, les tracteurs vont faire demi-tour pour partir dans le bon sens.
Moi, j'ai voté contre la loi, oui, effectivement.
Tristan Lahaye, député Génération d'Ille-et-Vilaine.
C'est pas une journée, hein, c'est vraiment des jours et des jours de discussion, de bataille article après article, amendement après amendement. Que voulez-vous, il y a un accord implicite entre le gouvernement et l'extrême droite. Je crois que Mayrou tient plus par-dessus tout à son poste, quitte à sacrifier toutes ses valeurs et le minimum de conscience écologique qui existait encore dans le bloc central au profit de la stabilité politique, vaille que vaille.
Vous allez continuer à vous battre ?
Bien sûr. Après, vraiment, en ce moment, c'est qu'on a à se battre sur mille fronts, sur les questions migratoires, sur les questions relatives à la retraite, sur les questions relatives à l'écologie, on ne manque pas de sujet, donc on se bat dans l'hémicycle, dans la rue, autant que nécessaire.
Notre-Dame-des-Landes, si ça a été arrêté, c'est parce qu'il y avait à la fois des individus, des collectifs, des agriculteurs, des paysans, des habitants et des militants politiques qui se sont bougés, et c'est la convergence de ces actions, un peu sur le long terme, qui a fini par aboutir. Il y a toujours de l'espoir de faire changer les choses. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard.
La Confédération Paysanne appelle à une nouvelle mobilisation les 29 et 30 juin prochains, jour où doit être votée la loi en commission mixte paritaire. Nouvelle fusillade à Morpa. Plusieurs coups de feu ont été tirés à proximité de la bibliothèque municipale du quartier vers midi. Le bilan matériel fait état pour l'instant de 2 impacts de balles sur des vitres de cette bibliothèque. Une bibliothèque déjà fermée plusieurs mois après une précédente fusillade en octobre. Aucune victime ne sera à déplorer.
Merci Anthony pour ton flash, on passe à l'interview.
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe. Il est midi. La radio sauvage.
Minuit.
01. À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Débardeur à rayures, tout en nuances de gris, nous recevons ce soir Morgane Le Gallic, directrice du Festival des Tombées de la Nuit. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour parler, du coup, de la nouvelle édition des Tombées de la Nuit. Alors, pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas encore la chance de connaître ce festival, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Les Tombées de la Nuit, c'est le grand rendez-vous rennais de début d'été. On a quand même plus d'une quarantaine d'années, soit quand même aussi à peu près mon âge. Donc, et on est aussi du coup très jeune. Voilà, on a d'abord été une émanation de l'Office de tourisme rennais, puis on est sous forme associative depuis 2003. Et on est vraiment le grand rendez-vous de plein air, théâtre, danse, musique, toute forme de spectacle vivant, et la plupart du temps dans l'espace public ou alors dans des lieux atypiques.
Dans des lieux atypiques, et cette année, il y a une place particulière qui est faite pour le Grand 8. Pourquoi ce lieu ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Alors d'abord, il y a l'attachement qu'on a avec les personnes qui le dirigent, à savoir la famille Masclet, qui est une famille de collectionneurs de manèges, qui ont des projets de faire de ce lieu un lieu dédié à la collection de manèges et d'objets forains, à leur restauration, mais à aussi marier tout ce qui existe dans la création contemporaine, la musique, le monde des makers, et à faire de ce lieu un lieu vivant, un lieu de patrimoine vivant.
C'est une vraie caverne d'Ali Baba, du cirque.
Exactement, du cirque et du monde forain, et pas seulement. Voilà, c'est effectivement, on est dans la passion des collectionneurs. Et comme nous, on travaille aussi avec des comédiens qui viennent du théâtre de rue, du théâtre forain. Ça nous parle beaucoup.
Et qu'est-ce qui va s'y passer alors cette année dans ce Grand 8 ?
Alors dans ce Grand 8, il y aura principalement la programmation musicale des Tombées de la Nuit. Du coup, on n'ouvre pas le festival au Grand 8, puisque le festival il ouvre dès le mercredi 2 juillet, mais on y sera dès le jeudi 3 juillet avec le musicien Joub, qui a fait une tournée à vélo depuis les nuits de Fourvière jusqu'aux tombées de la nuit. Il a transformé son vélo en instrument de musique. Il a fait en sorte que les câbles de frein deviennent des cordes de guitare. Et du coup, il nous livre un set d'ouverture. Et comme ce sera la fin de sa tournée, tout le long de sa tournée, il a aussi enregistré des sons. Il a fait du field recording. Pour vous, les passionnés de radio, voilà, c'est un modèle aussi. Et du coup, ce sera le set d'ouverture au Grand 8. Et on aura ensuite toute la programmation musicale très diversifiée.
Oui, donc on peut citer Emané, je crois qu'on dit. Oui. Emané, c'est ça. Lisa, Concordski, Farniente, Barbie Blondie, DJ Tuk Tuk, Turfu, David Delabrosse. Je crois que je ne les cite pas tous, mais il y a une belle prog musicale. Et puis, je voulais mentionner Cat White aussi, qui va être la marraine du tremplin musical de Rennes 2 quand même l'année prochaine.
Ok.
Voilà, donc j'étais obligée de le placer là. Mais voilà, il y a une belle prog musicale au Grand
Oui,
Vite,
et une belle place faite à la scène rennaise, ouais, entre effectivement Cat White, des sonorités folk, mais aussi plus soul comme Emané, ou bien une place faite à la chanson à travers David Delabrosse. Voilà, on est sur une variété d'esthétiques, et l'idée aussi au tombé, c'est d'amener la musique là où elle n'est pas forcément, du coup, dans ce lieu-là.
Et vous parliez de Joub avec son vélo, je crois que vous encouragez beaucoup les mobilités douces au tombé de la nuit, que ce soit dans la logistique, mais aussi dans les spectacles. Quel autre spectacle on peut
citer qui se passe à vélo ? Alors en tout cas, je ne sais pas si on encourage les mobilités douces, mais on encourage la douceur et le fait de prendre son temps. Et du coup, de fait, on a invité l'équipe de Gala Pied-Cirque, qui est installée dans les Côtes d'Armor, à venir présenter son projet qui s'appelle Les Maîtres du Désordre. Déjà, on aime bien ce titre qui invite un peu à mettre le bazar de manière ordonnée. Et ils ont prévu avec nous un projet qui démarre dès demain, parce qu'on aura la première date à la MJC de Passé. Et c'est 5 dates qui vont donc de Passé à Rennes. Et Sébastien Vojdan, qui est l'artiste principal de ce projet, il propose une vraie performance où il y a du funambulisme, du lancer de couteau, du feu. Voilà, et un moment de rencontre fabriquée exprès pour toutes les villes et tous les endroits qu'il investit. Et en plus, il voyage à vélo de lieu en lieu. Et on avait vraiment envie de l'accompagner autour de ce projet.
Dans l'édito de l'édition de cette année, on peut lire en quasi-commencement « L'année 2025 a été mouvementée et l'actualité continue de l'être ». On le voit tous les jours dans notre émission. petit aparté, l'époque a son petit air années 30, sa même musique. Est-ce que l'actu a une influence importante sur le choix de la prog de cette année, plus que d'habitude?
En tout cas, on ne peut pas dire que les artistes peuvent s'exonérer. Ils ne sont pas politiciens. Ils ne se positionnent pas en militants ou en députés comme la personne qu'on a entendue avant. Mais ils ont des choses à dire sur la marche du monde et souvent pas d'ailleurs forcément une lecture trop politique, mais juste une sensibilité de dire que qu'est-ce que ce monde nous fait. Et ça nous fait du bien de prendre ce recul-là avec eux, en tout cas, moi c'est ce que je pense.
Et il y a la mention aussi de réalité augmentée dans les tombées de la nuit cette année. De quelle manière elle est abordée?
Alors c'est un peu notre manière à nous, mais on pensait, enfin, quand en écrivant ce mot, je pensais particulièrement à un super spectacle qui est d'ailleurs tout à fait pour le public étudiant, qui s'appelle Violent, qui jouera à la prison Jacques Cartier le vendredi et le samedi soir du festival. Et Violent, c'est encore une équipe costa-armoricaine, la Société Protectrice des Petites Idées. Et les deux filles, elles ont collecté des tas d'images sur le web, complètement absurdes. Et à partir de ces images-là, elles ont imaginé vraiment un délire visuel où il y a du rodéo, du kung-fu, un salon de toilettage canin. Et on a vraiment cette impression de, quand je dis de réalité augmentée, un peu aussi de l'ivresse que nous donne la réalité augmentée. Pas besoin forcément de mettre un casque de VHR pour vivre ça. Le théâtre aussi, ça nous fait vivre des sensations fortes.
Et je crois qu'on peut lier aussi à ce terme de réalité augmentée un autre spectacle qui s'appelle Combustion.
Oui. Tout à fait. Combustion, c'est notre très grand format qui jouera sur l'esplanade Charles de Gaulle, qui a l'habitude d'accueillir des très grands événements à Rennes. Et c'est un documentaire sur écran géant, avec quelques surprises, mais je ne peux pas les dévoiler, sinon ce ne sont plus des surprises, autour de la question des feux d'artifice dans le monde et de pourquoi ils sont créés. Est-ce qu'ils servent aux dictatures ou ils servent à faire la fête? Et à partir de là, y a toute une trame qui est tissée. Et c'est vraiment en combustion et spectaculaire, de fait.
Et on retrouve un peu cette petite dimension politicienne, en tout cas.
Alors,
Engagée, on va dire.
ou engageant, ou en tout cas de se dire... Mais ce n'est pas des artistes qui prennent parti dans combustion non plus. Ils nous laissent nous faire notre idée à partir de l'état du monde.
Ils nous font nous questionner.
Oui.
Et on parle aussi de résistance. Je crois beaucoup.
Pareil, un mot dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, mais c'est aussi que, ne serait-ce que pour résister au torrent de l'actualité, c'est bien pas forcément de se réfugier dans l'artistique, mais de s'arrêter avec eux, de peut-être de changer d'échelle aussi pour un peu souffler. Il y a ça dans l'idée de résister, et de ralentir. Résister, ce serait déjà ralentir un petit peu.
Donc, par exemple, on peut mentionner au hasard Nouveau Parlons d'amour,
ouais, tout à fait. En tout cas, c'est un spectacle qui met l'amour et le chemin qu'on peut faire de la dureté de la vie face à l'amour et la lumière. C'est un texte très poétique monté par le metteur en scène Massimo Dean, un texte de Jeanne Benhamer, avec sa troupe de comédiens non professionnels. Et ça jouera dans l'hôpital Guillaume Régnier les premiers soirs du festival. Et oui, on avait envie de faire de la place aussi à l'amour et la lumière, parce que c'est une manière de résister.
Et puis, vu qu'on parle d'amour, on peut mentionner aussi « À vos amours » de Anne-Cécile et Steph, qu'on avait reçu le 14 février, d'ailleurs pour la Saint-Valentin, dans 6 heures avant minuit, et qui est de retour dans les tombées de la nuit.
Oui, Anne-Cécile, c'est une lumière au-delà du fait dans la vie des tombées aussi, parce qu'en tout cas, c'est un projet qui s'appelle « À vos amours » et elle avait envie de le créer aussi parce qu'elle avait envie de parler de choses heureuses. Et du coup, elle a fait tout un parcours dans la ville, elle a reçu les Rennais qui lui racontaient leur rencontre d'amour. Et à partir de ça, elle va faire une expo photo à l'automne, produite par les Tombées de la Nuit, qui aura lieu dans le festival Glaz. Et Anne-Cécile, c'est une vision de l'amour qui est juste autour de la rencontre déjà. Et pareil, c'est un projet qui est lumineux, qui parle à tous. Et du coup, elle va venir au Grand 8 pendant 2 jours encore pendant le festival pour recevoir des récits de rencontres. Et peu importe si d'ailleurs les rencontres sont finies ou ont encore lieu, ou si c'est juste l'histoire d'un soir ou de plusieurs années.
Est-ce qu'elle va lire des récits
Et elle va aussi lire les récits de quelques rencontres, parce qu'ils sont tout à fait savoureux, celles et ceux qu'elle a déjà récoltés.
J'ai eu la chance d'en entendre quelques-uns, c'est vrai que c'est super émouvant.
Voilà, ça fait du bien.
Ouais, ça fait du bien, carrément. À mentionner aussi un gros, gros projet Tapis Rouge, une chorale avec des centaines...
Alors, on annonce 500, au moins 300 enfants et 200 adultes, mais je pense qu'on les aura. Oui, c'est vraiment le projet phare du festival. C'est un projet qui est mené par la chef de chœur Corinne Ernoux. Et l'équipe de la co-compagnie qui a plein de ramifications, et ça fait plus d'un an que Corinne fait répéter dans deux écoles à Rennes et aussi une école à Saint-Germain-sur-Isle des classes entières autour de textes dédiés aux droits des enfants, donc des textes à la fois assez sérieux parce que c'est sérieux les droits des enfants, et en même temps elle les a aussi amenés vers leurs droits à rêver, vers des droits plus symboliques. C'est une chef de chœur extraordinaire et elle est franchement capable de faire lever et chanter les foules. Et le projet, c'est un projet très collectif qui, j'espère, tiendra du miracle, parce qu'aujourd'hui, rassembler 500 personnes sur scène pour les faire chanter ensemble en plein cœur de ville, c'est vraiment énorme, en tout cas. Donc oui, c'est notre projet central, et c'est aussi là aussi celui qui nous fait rêver. Autant celui d'Anne-Cécile, il est dans l'intimité, autant celui-là, c'est vraiment l'expression collective, mais ça nous rend tout aussi joyeux.
Puis qui nous ramène un peu à résister, encore une fois, à cette actualité dans une époque où on parle de nos kids un peu partout.
Oui.
Voilà. Est-ce que vous vouliez mentionner d'autres spectacles, parce que je vous amène là depuis tout à l'heure sur mes petites notes, mais peut-être que vous aviez envie de parler de spectacles en particulier.
Peut-être la mention du spectacle de Pierre Pilate, la compagnie 1 Watt, qui s'appelle Nouvelles de No One, parce que je trouve que ce spectacle, c'est l'essence du théâtre de rue. Pierre et sa femme Sophie, ils racontent leur jeunesse et comment ils ont été aussi artistes, quelque part un peu militants, comment la vie les a transformés. La musique est très moderne. Et en tout cas, je trouve que c'est aussi ça, l'esprit des Tombées de la Nuit. Vous pouvez tomber nez à nez avec ce projet, ou alors y aller comme ça, c'est gratuit. C'est midi, le vendredi du festival démarrage de la place Sainte-Anne, et il y a quelque chose de très libre qui se dégage de ce projet. J'ai envie que les gens tombent dessus par hasard ou se précipitent pour le voir, parce qu'il est vraiment très fort.
Et les Tombées de la Nuit, c'est aussi beaucoup, beaucoup de propositions gratuites. On ne va pas le répéter une énième fois sur les ondes de Syllab, mais ça se complique financièrement pour la culture en France en ce moment. Est-ce que ça devient un challenge de maintenir ces propositions gratuites pour vous ?
En tout cas, on est une structure culturelle qui est très aidée par les financeurs publics, et c'est très important aujourd'hui parce que c'est ce qui nous permet de maintenir et la gratuité ou des tarifs très accessibles. Du coup, ça, c'est important de le faire. Et puis, finalement, je sais que sur d'autres radios, par exemple, j'ai été interviewée sur le fait de faire des sorties familiales pas trop chères. Donc oui, c'est un critère déterminant quand même de rester accessible et la gratuité ou les tarifs bas, c'est le principe même de notre projet. Ouais.
Vous citiez en fin d'édito aussi Lola Lafont dans un article qui est paru en avril dans Libération. J'aurais aimé qu'on finisse par ça, parce que c'est une petite note de... On peut le voir comme une petite note de lumière aussi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas.
C'est comme ça que j'ai essayé de le poser. Donc elle cite James Baldwin, qui est un écrivain afro-américain qui est plus âgé qu'elle, enfin je veux dire il est déjà décédé, James Baldwin, mais c'est aussi là comment on voit la résistance et comment en fait on peut se dire chacun en soi-même, il est jamais trop tard en fait pour agir, il est jamais trop tard pour se révolter contre quelque chose, et finalement de se dire rien que en essayant de pas forcément aller dans le sens de la masse, ou en essayant de résister un tout petit peu individuellement à son niveau, on est déjà en train de faire un geste d'ordre amoureux ou un geste politique peut-être à nous de voir. Et du coup, moi, c'est ma manière effectivement de... Je trouve que c'est très bien posé, et du coup, les mots de Lola Lafont et de James Baldwin, ils nous invitent à ça, ils nous invitent à résister à notre hauteur, à nous, et à nous dire qu'il est jamais trop tard.
Merci beaucoup Morgane Le Gallic.
Merci.
Donc les Tombées de la Nuit, c'est du 2 au 6 juillet prochain à Rennes.
Merci.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique, et ce soir c'est les volcaniques avec Enora pour une toute dernière fois.
Oui,
déjà.
Pour cette dernière des volcaniques, je me suis mise en quête de celle qui avait raconté avant moi. Celle qui s'était emparée des outils radiophoniques pour donner de l'écho à nos voix. Sans doute le besoin de me raccrocher ou de m'identifier. Alors j'ai remonté un peu le temps et je suis tombée sur elle.
Ce sera tout à fait...
comme à la radio.
bravo, vous nous avez trouvés. Ici Radio Pleine Lune, une radio pirate de femmes. Sur FM, entre 100 et 104, Radio Pleine Lune.
Une brise de sarcasme, un vent de révolution, un désir profond d'émancipation. Je vous présente Radio Pleine Lune, une émission féministe qui a émis tous les mercredis sur les ondes de Radio Zone à Genève entre 1981 et
Radio
1999.
Pleine Radio Pleine Lune. Radio Pleine Lune, tous les 28 jours.
Tous les 28 jours.
Cette émission, elle naît à un moment où le mouvement social des années 1968 est en déclin. Et le mouvement de libération des femmes de Genève, alors intensément actif depuis 1971, n'est malheureusement pas épargné. Les actions politiques diminuent, les militantes se fragmentent en groupes de travail et désertent les assemblées. Et le mouvement, bah, il peine à recruter. C'est aussi un moment de transition où la contestation féministe change de forme. L'État commence à s'emparer de ces questions en finançant par exemple des bureaux de l'égalité. Et les partis politiques comme les syndicats mettent notamment en place des commissions sur ce sujet. Alors des organismes émergent, les groupes de travail se multiplient et le mouvement de libération des femmes continue de se disperser. Et à cette dispersion s'ajoutent des divergences internes sur la marche à suivre. Pour certaines, il faut emprunter une voie politique avec des objectifs socialistes précis. Pour d'autres, il faut sortir du système. Et ce sont elles qu'on a appelées les radicales qui ont créé Radio Pleine Lune. Conscientes de leur sous-représentation médiatique, elles entendent être un espace de parole pour celles qui ne l'ont jamais. En bref, comme elles l'écrivent dans leur tract de présentation, elles sont déterminées à faire une émission sans mal, sans regret, sans technicien et sans censure. Une radio politique et libre, donc, mais surtout pirate.
Alors l'histoire de la Pleine Lune, c'est une histoire qui est très très vieille maintenant. On pourrait dire qu'elle a commencé en 76. En 76, à Genève, il y a eu la première radio pirate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la radio 101. Les vieux s'en souviennent sûrement, parce que ça a été un moment absolument mémorable. La ville s'était parsemée d'affichettes qui disaient, eh bien, à partir de 8h, vous écoutez 101. Et une radio pirate s'est fait entendre. Pirate parce qu'à l'époque, il y avait un monopole total des ondes. Il n'y avait que l'État qui pouvait émettre. Il n'y avait absolument aucune radio associative ou radio privée. Et cette radio, dans cette radio pirate, il y a eu une émission de femmes. Je me souviens encore que nous l'écoutions dans le centre femmes occupé, cette rue des Grottes. Donc c'est vraiment un moment important. Et puis en 79, quelques femmes se sont réunies en décidant de faire, en exprimant l'envie de faire une émission régulière de femmes sur comme radio pirate, puisque à l'époque, toujours, les radios associatives étaient interdites. L'idée, bien sûr, c'était un gros boulot, un gros investissement. Déjà, techniquement, il fallait apprendre à émettre, et avec toute une série d'aventures parfois assez
scabreuses. C'est pas la moindre des choses.
Si ce n'est pas scabreuse. Et puis,
poursuite dans les bois, avec les télécoms de l'époque qui poursuivaient les émetteurs.
Et d'autres aventures. Et l'idée étant d'émettre... avec une radio et surtout une radio pirate, se pose toujours le problème de la régularité, puisque on ne peut pas toujours fixer les rendez-vous. Donc on avait dit, eh bien faisons-le tous les 28 jours. Finalement, chaque fois la lune est pleine, on émettra. Et la radio s'est appelée Radio Pleine Lune pour cette raison, elle émettait tous les 28 jours. On voulait le faire au début chaque fois qu'on avait nos règles, mais comme ça a été assez irrégulier, on a finalement décidé que ce serait les jours de pleine lune.
Les animatrices de l'émission l'ont beaucoup raconté, leur émergence dans ce contexte de monopole des ondes. S'imposer, arracher sa place, défier l'autorité avec les risques inhérents que cette résistance se voit tue. Et à l'écoute de leur voix, elles posent aussi ce qui fait, pour moi, leur identité. Et au cœur de celle-ci résonnent ces mots. Expérimenter et créer. On en parlait la semaine dernière, mais ici la technique, elles ne l'ont pas encore, mais tant pis, elles apprennent sur le tas. C'est fragile, mais ça a l'air joyeux. Alors elles se sont moquées des gris convenus, elles ont assumé leur position, traitant des sujets qui les importent, les questionnent et les révoltent. Radio Pleine Lune, c'est l'archive de 20 ans de lutte, une lutte sans frontières.
Alors, ça vient du fait qu'on était des jeunes femmes engagées, militantes, et qu'on pratiquait l'intersectionnalité bien avant que le mot existe. On avait cette vision, voilà, on était solidaires avec ce qui se passait dans le sud global, on était aussi solidaires avec les squatters, on était aussi solidaires avec... les luttes des femmes, les lesbiennes qui commençaient à s'organiser. Donc pour nous, c'était tout ce qu'il y a de plus normal.
Pour elles, c'était tout ce qu'il y a de plus normal. Elles ont prouvé l'importance de garder nos mémoires, de témoigner de nos vécus par tous les moyens. Dire la colère là où ça brûle, là où ça vibre, dire les liens qui réparent et la puissance de le faire ensemble. Dire la détermination et qu'on ne s'arrêtera pas. Il y a 44 ans, elles ont ouvert une brèche radiophonique. Depuis, on ne cesse de la maintenir ouverte. Alors merci Héloïse d'avoir offert ce micro au Volcanique.
Merci à toi Enora, tu reviens quand tu veux hein, pour poursuivre ta chronique et merci pour la découverte de ce projet un peu witchy je trouve hein, quand même, j'adore. Je crois qu'on a un petit répondeur sur le message bien sûr.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
La radio sauvage.
Oui, c'est toujours Benoît. Donc, vu que j'ai vu sur Facebook l'émission va fêter sa dernière jeudi prochain, et ben, je serai peut-être présent à l'émission jeudi soir. Donc, ça serait un plaisir de voir toute l'équipe de l'émission et puis bah, toute l'équipe de la radio. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Ciao.
Mon micro, il était éteint. Merci Timothée. Bah oui, viens Benoît. Bah oui, effectivement, comme le dit Benoît, jeudi c'est la dernière de la saison. Après, on se fait, on part pas tout de suite en vacances, mais voilà, on sera off jusque début octobre, voilà. Donc n'hésitez pas à nous écouter jeudi à 18h. Ce sera une émission très très spéciale. Et puis faites comme Benoît, laissez-nous un message vocal. Je vous redonne le numéro. C'est le 02 30 96 25 35. Merci par avance. Merci Timothée pour la technique. À demain dans 6h avant minuit.
Si la radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs d'or.
6h avant minuit. 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.